Seigneur Jésus-Christ, tu es Jésus, tu es celui qui sauve. Tu es le Christ, tu es le Messie, celui qui avait été promis pour nous délivrer du péché, nous délivrer de ce sentiment d'être loin de toi, nous délivrer de l'impression qu'on est seul au monde. Donne-nous aujourd'hui d'apprendre des éléments utiles. Donne-moi d'être un canal utile pour toi et que chacun d'entre nous puisse repartir avec quelque chose qu'il ou elle a appris, qui peut l'aider à méditer sur qui tu es, comment venir à toi, comment vivre avec toi, Père Céleste, par la puissance de l'Esprit Saint dans la communion avec Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais prêcher sur le livre, j'aurais envie de dire le pire dans toute la Bible, celui, la plupart des chrétiens, au bout de deux chapitres, ils s'endorment. J'ai pas eu le temps d'aller plus loin, vous êtes déjà un petit peu au courant. C'est une grande tristesse pour moi que la connaissance, la compréhension de ce livre ne soit pas plus vécue, parce que c'est un des livres fondamentaux de toute la Bible. C'est le livre par lequel les enfants juifs commencent à apprendre à lire. Les enfants juifs, ils commencent pas à lire les histoires de la Genèse ou l'Exode ou quoi que ce soit, ou les Proverbes. Ils apprennent à lire avec le livre du Lévitique. Ils apprennent à lire avec le livre du Lévitique. Alors, une des raisons, c'est qu'il y a plusieurs passages qui se répètent, donc le vocabulaire revient, mais ceci aussi parce qu'il est considéré comme être un livre important. J'aimerais vous distribuer une petite carte, comme on fait d'habitude. Colline, je te laisse donner pour ton côté. Dominique, tu peux donner pour le côté jusqu'à Laurence. Le Lévitique. Lévitique, ça vient du mot Lévite. Lévite, c'était une tribu d'Israël qui avait perdu tous ses droits pour être au service des autres. Les Lévites, c'est ceux qui n'avaient pas de terre et qui n'existaient que comme ceux qui transmettaient les enseignements de Dieu et qui étaient soutenus et nourris par les autres. Et c'est ça qui est intéressant, parce que la plupart des peuples alentours, la caste, j'utilise volontairement le terme caste des prêtres, qui était un groupe spécifique, était en général un groupe qui était très protégé, qui avait des biens, qui avait des richesses. En Égypte, par exemple, les prêtres étaient les seuls à posséder leurs terres et à avoir une nourriture que le roi leur donnait régulièrement. Dans beaucoup de pays, c'était le cas. Et je dirais jusqu'à... Au Moyen-Âge, il y a eu dans le christianisme un peu quelque chose qui a été fait de ce style-là, où les prêtres étaient très riches. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, hein. C'est un petit peu différent. Et les pasteurs aussi, en général, sont modestes, pour la plupart. Mais ces lévites étaient ceux qui étaient au service des autres. Au service pourquoi ? Pour leur enseigner le chemin de Dieu. Pour transmettre le chemin de Dieu. Et en tant que pasteur, celui qui prêche joue le rôle d'un lévite, finalement, qui va enseigner les autres. Et ces enseignements, on en retrouve un nombre important dans le Lévitique. Vous avez vu, il y a quatre couleurs. Dans le graphique, vous avez quatre parties. Une première partie en rouge, avec le titre en haut à gauche, enseignement sur les sacrifices. Qu'est-ce que c'est que les sacrifices ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui est en jeu ? La deuxième partie, ça sera l'ordination des prêtres. Les premiers prêtres qui auront la tâche de faire ces sacrifices sont préparés pour la tâche. Entre autres, en faisant des sacrifices pour eux aussi. Ensuite, vous allez avoir la question de qu'est-ce que c'est que l'impureté. Enseignement sur ce qu'est l'impureté. Et ensuite, vous aurez l'enseignement sur la sainteté. Aujourd'hui, nous allons voir en priorité tout ce qui est sur les sacrifices. Il est tellement riche, ce livre, que je vais le faire en deux fois. Aujourd'hui, on va voir les questions de sacrifices et voir quelle importance ça a pour le Nouveau Testament, pour les chrétiens. À quoi ça sert ? Et on va évoquer brièvement la question de l'impureté et la question de la sainteté. Et la semaine prochaine, nous parlerons plus de qu'est-ce que c'est que la sainteté de manière concrète. Des fois, dans le christianisme, on est très théorique. On est dans la tête. On est abstrait. Dans l'Ancien Testament, c'est du concret. Si tu aimes ton prochain, tu vas aller récupérer son bœuf qui s'est éloigné pour le ramener à lui. Tu vas te débrouiller, par exemple, pour que quand tu construis ton toit, et ça, Anton, tu seras intéressé, dans Deutéronome, on dit que tu dois mettre un petit parapet autour de ton toit pour qu'il n'y ait personne qui tombe de ton toit et qui se fasse mal. Donc, il y a toute cette prévenance. Et aujourd'hui, on va dire que c'est des règles, les ISO 9001, etc., pour éviter les accidents. Mais au-delà de cela, finalement, déjà dans l'Ancien Testament, on trouve cette base de dire quand on fait quelque chose, on se préoccupe de l'autre. C'est pas que pour nous. Si ça fait du mal à l'autre, c'est pas bon. Donc il y a toute cette sagesse pratique. Et dans l'Ancien Testament, le but pour un chrétien, c'est pas de dire je vais faire mon toit maintenant avec un parapet, même si pour certains qui montent sur les toits, ça pourrait être pratique d'avoir des parapets. Ça pourrait aider, comme ça on tomberait pas. Mais finalement, ces règles nous donnent un esprit, des principes. Et je dirais, pour les sacrifices, ça va être la même chose. Il y a des principes qui vont continuer à s'appliquer à la relation avec Jésus. Et ces principes, j'aimerais vous les expliquer, les principes clés, et que vous voyez un peu leur importance. Parce que j'espère que vous verrez combien ils sont importants pour comprendre le sacrifice de Jésus. Des gens, des fois, disent, oui, les sacrifices de l'Ancien Testament, de toute façon, ça, c'est les choses anciennes. Aujourd'hui, il y a le sacrifice de Jésus. Alors après, on va me dire, bon, Jésus, il est mort pour mes péchés. Alors je leur demande aux gens, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est mort pour tes péchés? Ah ben oui, il est mort, mais puis moi, j'ai plus besoin de mourir. D'accord? T'es sûr? Ça marche, ça? C'est magique? C'est une technique? Tu dis, Jésus, t'es mort pour mes péchés, moi, je meurs plus? Tu mets une pièce, c'est automatique? Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu? Et tant que vous ne revenez pas aux principes fondamentaux de l'Ancien Testament sur les sacrifices, vous allez vous gratter la tête, vous allez essayer d'être pieux en disant « Oui, d'accord, Jésus est mort pour mes péchés. » Je le répète parce qu'on aime bien le répéter chez les chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que vous avez compris cet enjeu que le sang de Jésus vous purifie? Est-ce que ça a du sens pour vous? Sans l'Ancien Testament, je dirais, il y a très peu de chance parce que c'est dans l'Ancien Testament qu'il y a tous ces enseignements. Dans le Nouveau, il y a juste certains éléments qui vont être repris pour intégrer ça dans la foi chrétienne. Mais si l'Ancien Testament, les éléments ne sont pas compris, le Nouveau Testament, j'aime bien dire, on est sinon comme un arbre de Noël. Un arbre de Noël, c'est un arbre qui est joli, mais pour pas très longtemps. Vous savez ce qui se passe au bout d'un mois avec un arbre de Noël? S'il n'est pas synthétique, hein? Il perd ses épines, il est mort parce qu'il n'a pas de racines. Les racines de la foi chrétienne sont dans l'Ancien Testament. Quand vous n'avez pas ces racines, vous aurez du mal à vivre votre foi chrétienne pour un long temps. Il va arriver une épreuve ou quelqu'un vous a déçu ou différentes raisons et tout d'un coup vous dites ça ne marche pas. Est-ce que c'est seulement l'Ancien Testament? Non, c'est un approfondissement de la relation avec Dieu qui est en jeu. Mais l'Ancien Testament va jouer un rôle important. D'abord, qu'est-ce que c'est que les sacrifices? Les sacrifices, les êtres humains ont essayé d'en faire depuis le commencement de l'humanité. Et Dieu les a utilisés pour enseigner son peuple. Il les a changés, il a changé le sens, il les a intégrés dans la relation avec Dieu. Les sacrifices, il y a des gens encore aujourd'hui qui vont avoir dans leur maison un petit temple avec leur Dieu. Et ils vont amener à manger et à boire à leur Dieu tous les jours. Vous avez déjà vu ça? Hein? Il leur mène à boire. J'amène à boire pour mon petit Dieu. C'est un peu une sorte de dinette pour des gens qui n'ont pas vécu cela, qui ne comprennent pas. Mais il y a des millions et des millions de personnes, plus d'un milliard, je pense, de personnes dans le monde aujourd'hui qui ont tendance à faire des choses comme ça. D'avoir leur petit Dieu. On leur fait les petits trucs pour être sympa avec eux. Et finalement, chacun a son petit temple chez lui. Et Dieu, déjà, il a changé une chose en Israël. Il disait, il n'y a pas plusieurs temples, il n'y en a qu'un. Parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un. Vous ne pouvez pas avoir votre petit temple faites vos sacrifices chez vous comme vous voulez. Dieu, il n'est pas à votre service, vous êtes à son service. Premier point. Deuxième point, on a tendance à dire, quand on ne connaît pas, ouais, les sacrifices, c'est des techniques magiques pour faire plaisir à Dieu. On fait son sacrifice extérieurement et comme ça, Dieu, il est content. Et puis ensuite, on peut faire nos affaires, et puis Dieu, il nous a pardonné, on a une bonne relation avec lui, on aura le paradis après. Je suis désolé, ça ne marche pas. Quand vous aurez des gens que vous verrez qui font ça, vous savez quel mot vous mettrez sur eux ? Des gens qui font les choses extérieures, mais qu'à l'intérieur, ça n'est pas en accord. Vous appellerez ça hypocrisie et vous aurez raison. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Faire à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas nettoyé, c'est pas purifié. Le but des sacrifices n'était pas du tout de faire quelque chose d'extérieur, c'était un signe extérieur pour une relation intérieure. Le but, c'était de toucher le cœur à travers des exemples concrets. Les enfants, quand vous leur donnez un enseignement, c'est toujours avec des leçons de choses, comme on dit. Les enfants leur donnent des images, des illustrations pratiques, parce qu'on veut qu'ils intériorisent le sens de ces images. Pourquoi est-ce qu'on leur donne des histoires racontées sur Pierre et le loup, comment le loup, quand il disait Pierre disait des mensonges, et puis qu'il disait le loup vient et qu'il ne venait pas, et puis ensuite le loup vient. La leçon, c'est dire, à travers une leçon pratique concrète, voilà, tu demandes pas, tu dis pas des choses qui ne sont pas vraies. Dieu est un enseignant qui va donner à son peuple tout un ensemble de leçons pratiques, des leçons de choses. Et à un moment donné, avec Jésus, Jésus va dire maintenant, toutes ces leçons sont vécues à travers moi. Toutes ces leçons sont intégrées en moi. Mais si vous enlevez les leçons de base, la foi en Jésus va être beaucoup plus fragile. Et si vous croyez que les sacrifices sont seulement pour l'extérieur, vous pouvez lire le psaume 51. Et ceux qui ont une Bible, je vous invite à ouvrir votre Bible au psaume 51. Et ceux qui n'en ont pas, je vous invite à en avoir une la semaine prochaine. Alors, j'aimerais vous lire le verset 19. Ou peut-être, Toby ou Lily, vous pouvez nous lire le verset 19.
Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne baignes pas un cœur brisé et humilié.
Merci, Toby. Le sacrifice à Dieu, finalement, le roi David disait, c'est quelqu'un qui est humble, qui vient humblement et qui vient à Dieu avec simplicité. Et quand on lit ce verset en tant que chrétien, vous savez ce qu'on a tendance à dire ? Par conséquent, nous avons juste à nous humilier devant Dieu, il n'y a plus besoin de sacrifice. Même Jésus, ça ne sert à rien. Le seul sacrifice, c'est être humble devant Dieu. On est d'accord, hein ? Ce psaume, il est vrai. Mais il suffit de lire deux versets plus loin. Pierre, tu as les versets 20 et 21 ?
Psaume 51, verset 19.
Oui. Alors, c'est parce que toi, sur ton téléphone, tu as les versets américains et ça doit être le verset 17 chez toi, le 17 ou 18.
Ah, les sacrifices sont agréables à Dieu.
Voilà. C'est que ta Bible, elle a des numéros de versets américains, c'est tout.
En fait,
Et bien ça, c'est des numéros de versets américains. Nos frères américains auront à changer bientôt parce que ces numéros de versets que nous, je vous lis, c'est les versets de l'hébreu. Et les Américains, finalement, auront à s'adapter un jour, à dire, ok, c'est la façon de noter les versets internationales. Et il y a toute cette discussion, mais ça sera eux qui auront à accepter. Autant on a reçu beaucoup de bonnes choses de nos frères américains, sur ce point-là, ça sera à eux de fléchir un moment. Car la Bible originale a des numéros de versets comme ça. Si tu cherches le titre du psaume qui est au chef de cœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, dans les Bibles en anglais, tu pourrais me dire quel verset c'est, Colline, au début du psaume 51, lorsque le prophète Nathan vint à lui? C'est quel verset? Le tout début du psaume.
Le tout début.
Ouais.
Le 51.
Ouais. When the prophet Nathan came to him. Quel est le numéro de verset ? Tu vois, sur le début de ton psaume, voilà. Ils ont même enlevé le titre. Ça c'est pas correct. Hein. Ça fait partie de la Bible. Hein, ça. Tu mets pas en note. Pardon. Sur ce point-là, c'est pas bon. Elle est très bonne ta Bible, mais sur ce point-là, je dirais. Après que le prophète Nathan ait parlé et lui ait parlé de son adultère avec Bathsheba. C'est très important parce que ça permet d'introduire le psaume. Alors, ce que tu as est quelque chose qu'on a souvent dans les Bibles en anglais. Ces titres font partie du texte et souvent, ça nous aide à comprendre le psaume. Mais en anglais, ils sont enlevés. Vous avez des titres, des fois, si vous ne les avez pas, sur celui-là, ça va manquer parce que on vous dit comment le psaume a été écrit. C'est quand David a été vers Bathsheba et qu'il a péché et après, il va prier. Tu vois, Colline, sur ce point-là, c'est une des fragilités dans les Bibles anglaises, qui sont par ailleurs d'une très bonne qualité. Alors, est-ce que, Pierre, tu pourrais nous lire les deux derniers versets du psaume 51 ?
D'accord. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, les holocaustes et les victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Ça va pas ? D'un côté, le psalmiste, il dit, oh, ce que tu veux, Seigneur, c'est un cœur brisé et contrit. Puis après, il lui dit, puis ensuite, on va t'offrir plein de grands sacrifices. Parce que les sacrifices, finalement, c'est pas une option pour l'Ancien Testament, ça fait partie intégrante de la relation à Dieu. Nous allons voir pourquoi maintenant. Vous voyez un peu cette tension où des fois, nos regards chrétiens, on a tendance à attraper un verset, puis on oublie qu'il y a tout le reste. Et ça fait qu'il y a même des auteurs chrétiens, des exégètes, qui en arrivent au point de dire, parce qu'ils ne comprennent pas un point important, que les sacrifices ne sont pas seulement extérieurs, mais reflètent une attitude intérieure. Tout comme la venue à l'église n'a pas un but magique. Ce n'est pas en venant à l'église qu'on va être sauvé. C'est un désir d'avancer, d'apprendre à aimer son prochain, d'apprendre quelque chose. Et ces exégètes, ils disaient, les deux derniers versets, ils ne sont pas originaux. Dans le vrai original, on pense qu'ils n'étaient pas là et qu'ils ont été rajoutés après. Alors à chaque fois que moi j'entends des trucs comme ça, je me dis, elles viennent d'où vos théories là ? D'où vous sortez ça ? Vous avez des manuscrits où vous avez juste ces versets, puis il y a les deux qui manquent ? En général, ils ne les ont pas, c'est une théorie qui est sortie de leur tête parce qu'ils se disent, ça ne colle pas. Mais quand vous avez quelque chose qui ne colle pas dans la Bible, j'aimerais vous dire, allez à l'enseignant. Imaginez un enfant en CP qui voit 3 plus 3 égale 5 et qui dit, non je ne suis pas d'accord. Moi je crois que 3 plus 3 égale 5, c'est juste. Pardon, je voulais dire, et qui dit, c'est pas 3 plus 3 égale 6, ça c'est pas juste. 3 plus 3 égale 6, c'est une erreur que les gens ont fait dans le livre. Moi je dis que c'est 3 plus 3 égale 5. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez prof ? Attends, lis, apprends à lire. Bon, bah, en général, c'est ce que Dieu va nous dire. Écoute, apprends à lire d'abord, puis réfléchis, puis viens me voir. Viens, je vais t'aider à comprendre. Pardon. On va prendre le temps pour essayer de comprendre. Et finalement, c'est ça qui est en jeu. Prenons le temps pour essayer de comprendre ces sacrifices. Donc, une réalité intérieure exprimée à travers des formes extérieures. Alors, nous allons regarder maintenant à travers le petit graphique. Je vous invite à les prendre. Et on va regarder un petit peu quelques éléments. Donc, la première partie sur les sacrifices. Le chapitre 1, c'est quoi le titre ? Holocauste. Qu'est-ce que ça veut dire, holocauste ? Hein ? On brûle tout. Holocauste, on brûle tout. Holos en grec, c'est tout. Kos, c'est une conjugaison de caillou en grec qui veut dire brûler. Tout brûlé. Tout qui a été brûlé. Donc, l'holocauste, c'est un sacrifice où on brûle tout. C'est le premier sacrifice et c'est un sacrifice qui est offert pour demander à Dieu de renouveler la relation avec nous. C'est revenir, c'est comme si c'est la première étape de la relation. Vous vous rappelez dans le tabernacle, le premier endroit où il y avait les sacrifices ? Le sacrifice d'Holocauste est le premier qu'on offre. Parce que c'est celui où on dit, je veux revenir à toi Seigneur. Et on s'offre à Dieu. Dans le Nouveau Testament, ça sera Paul qui dira en Romains chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, verset 1, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il fait référence entre autres au sacrifice d'Holocauste, tout brûlé. Ce sacrifice, c'est pour finalement le pardon. Quand on est loin de Dieu, il y a une dimension de pardon. Et ce pardon, c'est une façon de dire, j'ai été distant de Dieu, je veux renouveler la relation. La première étape, c'est de demander pardon. Si vous avez été loin de Dieu et qu'il y a des choses, vous voyez qui n'ont pas été justes dans votre vie, demandez pardon. C'est l'étape qui est la première étape. Et ce pardon coûte cher, parce qu'une relation coûte cher. Quand quelqu'un détruit une relation, en général, on le voit toujours mieux à travers les autres qui font du mal plutôt qu'à travers nous. Quand quelqu'un nous a fait du mal, on voit que la blessure est profonde. Et dans l'Ancien Testament, on veut montrer que une relation cassée, c'est grave et que c'est du sérieux. C'est pour ça qu'on va demander un sacrifice complet de tout un animal qui est brûlé complètement, pour dire c'est grave. Il y a quelque part eu la mort de quelqu'un dans la mort de cette relation. C'est grave. Et l'Holocauste, ça va être un animal, en général, c'était un agneau qu'on offrait, un agneau parfait d'un an. Ça ne devait pas être un agneau abîmé, on prenait le dernier, on se disait, celui-là, il a une patte qui marche pas très bien, de toute façon, je ne pourrais pas tirer beaucoup de laine quand il devient grand ou quoi que ce soit, donc on le sacrifie à Dieu. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Il fallait que ce soit un agneau parfait, qui n'ait pas un seul défaut, qui n'ait pas un nez tordu, qui n'ait pas un pied abîmé, parce que finalement, c'était montrer votre sérieux dans votre désir de relation avec Dieu. Ce jeune animal parfait, dans l'Ancien Testament, à un moment, Dieu va dire à Abraham, si tu es sérieux dans la relation avec moi, montre-moi qu'il n'y a rien d'autre que moi qui est premier dans ta vie, que tu ne mets rien d'autre plus important que toi, plus important que moi. Et c'est là que Dieu va lui demander quelque chose de paradoxal. C'est un test. Dieu, il ne veut pas tuer les êtres humains, c'est pas son but, mais il va lui dire, est-ce que tu es prêt à m'offrir ton fils Isaac? Est-ce que tu es prêt à dire que je suis plus important qu'Isaac? Dans notre culture moderne, on a tendance à dire c'est horrible, on a un Dieu qui tue. D'abord, j'aimerais vous dire, il n'a pas tué. Il n'a pas demandé à Abraham d'aller jusqu'au bout, mais il a voulu aller voir si Abraham avait clairement compris que Dieu était le chef. Et dans Hébreu, il est dit, Abraham avait confiance qu'il pourrait ressusciter Isaac. Et donc, je crois que c'est dans l'Épître aux Hébreux, ou bien Romains chapitre 4, ou Hébreux, il me semble que c'est Hébreux. Et la chose incroyable, c'est que finalement, Abraham a compris que Dieu est la source de vie. Donc, s'il demande de faire mourir un innocent, il va ressusciter l'innocent. Dieu ne tue pas les innocents, il n'y a que le péché qui entraîne la mort. C'est la règle spirituelle. Le péché entraîne la mort. Certains d'entre vous diront, c'est pas juste qu'à cause du péché, il y ait la mort. Vous savez ce que je réponds quand quelqu'un me dit, c'est pas juste qu'à cause du péché, il y ait la mort? Est-ce que c'est juste que quand je lâche ma montre, elle tombe par terre? Je vous l'ai déjà fait ce coup-là. Qui c'est qui va taper du poing et qui va dire, j'en ai marre quand on lâche un objet, il tombe par terre? J'en ai ras-le-bol. Toi, la montre, maintenant, j'en ai marre, j'arrête de tomber. Quand je te lâche, tu restes en l'air. Pourquoi tu m'obéis pas? Je te dis, reste en l'air. C'est stupide de faire ça. C'est grave. Et quelque part, ça fait sourire. On se dit, c'est absurde. Et bien de dire, oh ben Dieu, c'est pas bien qu'il veuille tuer parce qu'il y a eu le péché. Pensez à la montre. C'est pas bien que la montre tombe par terre. C'est pas bien. Pas bien la montre. C'est absurde. Soit Dieu est Dieu, soit il n'est pas Dieu. S'il est Dieu, il est le créateur de l'univers, il définit les lois physiques et les lois spirituelles, les deux. Tant que vous séparez les deux, vous faites un monde où on est les chefs, puis après un petit monde spirituel quand j'ai un problème dans mon cœur, un monde privé comme dans ce qu'on appelle le postmodernisme, où dans mon cœur j'ai le droit de prier qui je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Ça marche pas. Soit Dieu est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Soit il est le créateur de l'univers, soit il n'est pas le créateur de l'univers. Et donc, les sacrifices, quand ils demandent la mort, son but n'est pas d'être méchant, c'est d'enseigner. D'enseigner pour qu'il y ait un minimum de mort et qu'il y ait un maximum de vie. Si votre enfant, quand il commence à prendre un couteau et qu'il fait une petite blessure ou quoi à un de ses frères, vous lui dites « Ah, c'est pas bien, et que vous ne donnez pas de punition », qu'est-ce qui va se passer au bout d'un certain temps? il y aura des drames, il y aura des catastrophes. C'est comme ça avec Dieu, et c'est pour ça que Dieu veut dire le péché, c'est sérieux. Faire mal à son prochain, c'est sérieux. Et le but aussi, c'est d'enseigner à travers, on verra la notion d'impureté, de pouvoir enseigner petit à petit comment on reste avec Dieu, comment on apprend à aimer son prochain, comment on apprend à aimer finalement. Si vous vous rappelez, vous voulez vous rappeler d'un mot-clé pour la foi chrétienne, l'amour. Si vous voulez un mot-clé pour la foi musulmane, vous savez ce que c'est ? La soumission. Un mot-clé pour la foi hindoue ? L'illusion. Un mot-clé pour le bouddhisme ? Arrêter de souffrir. Les trois sont basés là-dessus. L'islam, ça veut dire soumission. C'est pas quelque chose d'inventé. Hein. Un imam vous dira oui, le cœur de l'islam, c'est la soumission. Je dirais, dans la foi chrétienne, c'est pas l'obéissance d'abord, c'est l'amour. L'amour va se traduire par une obéissance, mais d'abord c'est aimer. Dans l'hindouisme, ça sera l'illusion, ça, apprendre qu'on est dans une illusion. Votre but dans l'hindouisme, c'est sortir de l'illusion. Dans le bouddhisme, c'est sortir de la souffrance. Donc vous avez un peu les différentes façons. Dans la foi chrétienne et juive, c'est l'amour. Et les holocaustes, c'est un enseignement pour apprendre à aimer et à restaurer les relations. Première étape, c'est ce sacrifice où on brûle tout, pour se prendre conscience que la séparation avec Dieu a des dégâts sérieux. Et donc, quand on veut renouveler la relation, le premier sacrifice qu'on avait à offrir, c'est l'holocauste. Un deuxième aspect de la relation, ça va être l'offrande de grains. Alors, d'abord, j'aimerais vous lire, quelques versets de Lévitique chapitre 1. Les versets 3 à 9. Alors, est-ce que, Laurence, tu pourrais nous lire les versets 3 à 9, s'il te plaît ? Merci Laurence. Donc, la personne, imaginez quelqu'un qui a élevé ce taureau, ou cette offrande, ça peut être un agneau aussi, on verra, ça sera le deuxième exemple. Il l'a éduqué, il l'a élevé, il le connaît cet animal. Certains peut-être donnaient des noms à leurs animaux. Et il venait à Dieu, et il voulait lui montrer son sérieux dans la relation avec Dieu. Il offrait à Dieu ce sacrifice. Alors, vous allez me dire, « Oh, il n'est pas gentil, Dieu. Il fait mourir des animaux. Hein? » Puis on va y aller après. Si vous commencez avec ça, après, « Il n'est pas gentil, Dieu, parce qu'il permet qu'on coupe des arbres. » Moi, je dirais arrêtez de lire déjà, parce que c'est fait avec du bois et de papier, vous pouvez oublier. Donc, arrêtez de lire vos livres. Hein. Le but de Dieu, c'est d'épargner au maximum la création. Mais on ne peut pas tout épargner. Vous avez besoin d'enseignement. Et les enseignements coûtent cher, des fois. Coûtent cher en temps. Dans les classes d'école, les maîtresses, pour punir un enfant, des fois, elles doivent rester avec l'enfant. C'est une punition pour elles aussi. Ça coûte quelque chose. D'autres fois, tout a un prix. Ne croyez pas que vous pouvez, l'expression en français que j'aime bien, on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Vous ne pouvez pas faire un enseignement sans un minimum de choses que vous allez investir. Et Dieu a essayé d'investir le minimum pour enseigner le maximum. Et le but, c'est pas ça, de finir avec ça. Le but, ça va être de finir avec le sacrifice de Jésus, qui est un sacrifice une fois pour toutes, qui arrête tous les sacrifices d'animaux. Mais c'était une préparation, un enseignement. Et donc cette personne qui avait élevé cet animal, qui le connaissait, devait mettre les mains sur l'animal, reconnaître qu'il y avait des choses qui n'étaient pas droites devant lui, comme si elle transmettait à cet animal, symboliquement. Ça ne marche pas parce que c'est magique, ça marche parce que Dieu dit de le faire et qu'il nous invite, on répond à son chemin, on n'est pas en train d'inventer une technique, on répond aux enseignements qu'il donne par la foi. La foi est au cœur des sacrifices. Il n'y a pas de sacrifice possible sans la foi. La foi que ça marche, la foi que Dieu a demandé de faire ça. Et ensuite, la personne après, qu'est-ce qu'elle devait faire? Une fois qu'elle a mis les mains sur la tête de l'animal, elle devait égorger l'animal, laisser couler le sang, tuer l'animal, le couper en morceaux, l'offrir au prêtre qui le brûlerait pour le sacrifice. Et tout était brûlé. Je peux vous assurer que quand les gens de l'époque avaient vécu une expérience comme ça, que ce soit enfant ou adulte, ils s'en rappelaient toute leur vie. Ils savaient à quoi ça ressemblait. Et ils savaient aussi l'importance. Et ils savaient aussi la joie de savoir que même si on avait fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, il y avait un chemin. Parce que quand on a fait quelque chose de mal, notre premier juge, c'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Notre premier juge, c'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. Et on va voir dans le sacrifice la question de culpabilité, on en reparlera de cela. Alors ceux qui n'avaient pas de gros animaux, Dieu permettait des plus petits animaux pour les pauvres. En général, tout le monde avait. Même des oiseaux, tu pouvais trouver. Tu avais. C'est comme si tu disais quelqu'un qui a pas d'argent pour acheter un paquet de cigarettes, ou qui a pas d'argent pour acheter un sac de riz à la Réunion. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas acheter de riz, qui peuvent pas avoir un minimum de riz par jour? En théorie non. En pratique, c'est des trous dans le système, si on peut dire. Mais en pratique, ça n'existe pas. Tu vois, en France, non. Alors, ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Alors là, pour l'instant, c'est pour le tabernacle. Hein. Donc, tabernacle, tout le monde était là. Donc, tout le monde était ensemble. Et ensuite, on verra comment ça se passe. Il y aura des possibilités d'apporter son sacrifice à Jérusalem. On pourrait discuter après de ces choses-là. Donc, ça, c'est la première offrande. La deuxième, c'est l'offrande de grains. La première, c'est pour le pardon. Donc, si je vous demande la première offrande, vous vous rappellerez, je vous demanderai les trois premières offrandes pour aujourd'hui. Première, c'est l'Holocauste. Et c'est pour quel but? Le pardon. Holocauste et pardon, d'accord? Deuxième offrande, c'est offrande de grains. Et son but, c'est la consécration. Se consacrer à Dieu. Dire à Dieu, je t'appartiens, je reconnais que tout vient de toi. Le grain, ça fait partie des récoltes que vous avez faites. Et vous allez offrir de cette nourriture que vous avez à Dieu en signe de reconnaissance. Cette deuxième offrande correspond finalement à la dîme, si vous voulez. La dîme va être liée plutôt à l'offrande de grains, consécration, où c'est le travail de nos mains, on reconnaît que ce que l'on a reçu vient de Dieu. C'est comme si, par exemple, vous logez chez quelqu'un. Vous louez votre pièce. Quand vous recevez votre salaire, vous devez donner une partie pour la location. D'accord? J'aimerais vous poser cette question. Est-ce qu'elle vous appartient, cette terre?
Non.
L'air, vous le payez? Non. Dieu, il s'en fiche, hein. Il ne demande pas à ce qu'on le paye. Mais il nous invite à prendre conscience que tout vient de lui. Pour qu'on puisse vivre une attitude humble. Et qu'on puisse vivre dans une attitude où on n'est pas des possesseurs. Quand on croit que cette terre nous appartient, qu'est-ce qu'on fait avec la terre? On la casse en morceaux, on la détruit. Même pour les animaux, certains disent, oh, les holocaustes, et on verra aussi le sacrifice de communion, on dit, c'est horrible comment on sacrifiait les animaux. J'ai la simple question à vous poser ensuite. D'accord, c'est horrible. La mort est horrible. Mais comment est tuée la viande que vous avez dans votre assiette? Comment est tuée la viande que vous avez dans votre assiette? Est-ce que c'est plus noble ou pas? À votre avis? Là, dans ces cas-là, je peux vous assurer que ceux qui faisaient les sacrifices, ils ne méprisaient pas l'animal et ils essayaient de le faire le moins douloureux possible. Et l'animal allait mourir, c'est vrai. Ouais.
Quel est le mot hébreu pour holocauste ?
Holocauste, j'ai pas l'hébreu ici et je me rappelle pas, Colline. Je pourrais regarder la prochaine fois quand j'ai ma Bible, quand on se voit, tu me dis. Hein. L'offrande de grains sera donc cette offrande de consécration. Ensuite, vous aurez donc, si je vous dis holocauste, vous me dites quoi ? Pardon. D'accord ? Donc, on a le droit pour la fin du culte de poser la question soit un numéro 1, soit le mot pardon, soit le mot holocauste. D'accord ? Vous faites le lien entre chapitre 1, holocauste et pardon. C'est OK ? Deuxième chapitre. L'offrande de grains, c'est quoi le mot-clé à se rappeler ?
Consécration.
Consécration. Donc, si je dis, par exemple, à Laurence 2, tu me dis ? Voilà. Le troisième chapitre, ça va être sacrifice de communion. Sacrifice de communion, le mot hébreu shelamim, qui vient du mot shalom, paix. Le but de ce sacrifice, c'est la paix au sens hébreu. Je vous en ai parlé plusieurs fois. La paix dans la foi de l'Ancien Testament, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de guerre. Ça, c'est la paix dans le sens grec. Dans le sens hébreu, la paix, c'est une relation harmonieuse. Quand dans un couple, vous avez un accord de vivre ensemble, mais qu'il n'y a pas d'entente mutuelle profonde, il n'y a pas de paix. Et un jour, il y a la guerre. Le but de Dieu, c'est d'amener la paix. La paix, c'est une entente profonde. De vraiment s'entendre et d'arriver à une communion profonde. C'est ça le but. Tant que vous n'y arrivez pas, votre paix est fragile et peut casser à tout moment. Parce que le but de Dieu, c'est pas seulement de dire « Bon, la personne fait 2-3 trucs pour moi et puis c'est bon. » Dieu veut qu'il y ait une cohérence chaque jour dans la foi, dans la relation au prochain. Imaginez si je disais à Sandra « Je t'aime une fois par semaine, un jour par semaine je t'offre des fleurs, puis tous les autres jours de la semaine tu me fiches la paix et j'ai le droit de te dire ce que je veux. » Est-ce que vous pensez que c'est une paix shalom, ça ? Sandra, elle va pas être contente longtemps, même si elle est chrétienne, hein, elle va avoir du mal à un moment donné. Et le sacrifice de communion, le sacrifice shalom, finalement, le point clé, ça va être, là pour celui-là, vous n'avez pas besoin d'apprendre d'autres mots, c'est la communion, la reconnaissance, et il y a un repas. Dans ce sacrifice, déjà dans le premier, on brûle tout. Dans le deuxième, il va y avoir une partie qui est prise par les prêtres pour leur repas, pour leur nourriture. C'est pour ça que je dis c'est plutôt la dîme, le deuxième. Le troisième, il y aura un repas avec toutes les personnes qui ont offert ce sacrifice. Et vous allez voir que dans le Lévitique, vous n'avez pas le droit de tuer un animal en dehors de ces règles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Si on voulait tuer un animal, c'était pour un sacrifice de communion et on pouvait manger avec ceux qui étaient avec nous.
Ah, d'accord. Ça, c'est partagé tout le temps. Ils faisaient des agapés tout. À chaque fois qu'il
Alors,
y avait un animal, c'était pour un agapé. En fait,
voilà. Avec le tabernacle, il y avait un temps de célébration tous les jours, donc vous pouviez sacrifier. Maintenant, ce que vous avez à vous rappeler, c'est qu'à travers cela, il y avait une prise de conscience profonde du fait que la vie est sacrée. Qu'il y avait une reconnaissance envers Dieu. Et si... Derrière le terme communion, je vais peut-être quand même vous rappeler un mot, c'est reconnaissance. Le mot reconnaissance, désolé, pour celui-là, il y avait aussi l'aspect réconciliation. Le premier sacrifice, holocauste, c'est quoi ? Pardon. Le deuxième ? Consécration. Le troisième, il y a tous ces mots, hein. Communion, reconnaissance, repas et réconciliation. Peut-être qu'on va mentionner le terme réconciliation. Réconciliation, c'est vraiment cette paix. Chapitre 3. Ça va pour vous ? Chapitre 3, sacrifice de communion et le mot-clé, réconciliation. Vous voyez la différence pardon et réconciliation? Si on n'a pas fait le premier sacrifice, on ne peut pas arriver au troisième.
Stéphane, vous avez dit une autre fois que le mot pour paix en grec, c'est Irène.
Paix à Irène, oui.
Mais ce n'est pas le même que shalom, parce que non. En grec, ça veut dire qu'il y a une absence de bien ouvert.
Voilà. Mais dans le cœur, il n'y a pas forcément d'amitié, de sympathie. Deux cités grecques n'étaient pas en guerre, ça veut dire qu'elles ne faisaient pas la guerre. Ça ne veut pas dire qu'elles s'aimaient. C'est juste qu'elles n'étaient pas au niveau de se taper l'une contre l'autre. Mais la paix shalom était brisée bien avant que la guerre commence. Et le but de la foi, c'est d'arriver à ce shalom, cette paix dans les relations entre humains, afin qu'il n'y ait pas de guerre, afin qu'il n'y ait pas de rupture. Et si on n'a pas cette profondeur, tout ce qu'on vit sera fragile. Donc on peut se rappeler ensemble ces trois parties. Je ferme. Alors, chacun demande ou un des trois sacrifices du chapitre 1 à 3, ou un numéro, ou un symbole. Alors, on va commencer. Allez, on commence en général à gauche, je vais commencer à droite. Pierre ? Alors, si je te dis le numéro 3, c'est quel sacrifice ? Sacrifice de ?
Perso, hein, j'ai rien.
D'accord. Alors, on va répéter à haute voix ensemble. Juliette, tu nous le dis, puis après, on va répéter ensemble. Oui, pour la réconciliation. Ensemble, répétons tous à haute voix. Chapitre 3, c'est sacrifice de communion, communion ensemble, et c'est pour la réconciliation. D'accord. Répète à haute voix, Pierre. Ta mémoire, si elle ne marche pas avec Audi, seulement en écoutant, c'est qu'il faut que tu prononces. Oui. Voilà. Donc, se réconcilier. Tu peux penser qu'il y a les trois. Au milieu, il y a le deuxième. Qui pourrait me dire, Laurence, tu pourrais me dire le deuxième sacrifice? Voilà. Vous pouvez penser que le premier et le troisième, ça va être de la viande qui est offerte. Au milieu, c'est du grain. Donc, il n'y a pas le riz pour faire un bon curry, mais on y est presque. Alors, si je te demandais, Anton, le numéro 1, c'est quoi déjà? Et c'est le pardon. Donc, on a Holocauste, pardon. Colline.
Pardon, Stéphane, est-ce que vous êtes fini?
Oui.
Le mot-clé pour l'hindouisme, c'était
illusion, ou sortir de l'illusion. Ce qu'ils appellent dans l'hindouisme le samsara, le cycle des réincarnations, qui est une rentrée dans ce monde illusoire pour eux, et leur but, c'est d'en sortir, avec ce qu'ils appelleront l'illumination. Alors, je connais plus le terme hindou pour cette illumination. Alors, on va voir ensuite maintenant les sacrifices suivants. Donc, il y a Holocauste. Alors, Pierre, tu arriveras à me redire le premier, l'Holocauste, c'est pourquoi? Ouais, très bien. Le deuxième, c'est quoi comme sacrifice au milieu? Ça va. Ouais. Alexandre, c'est quoi le deuxième?
Ouais. C'est la consécration.
Consécration. Donc, d'abord c'est le pardon, ensuite la consécration, ensuite la réconciliation. Vous pouvez dire, quand il y a une relation brisée, d'abord, il y a un aspect de demander pardon, ensuite de s'engager, de dire je veux ne plus faire ça, et ensuite réconciliation. Je ne veux plus faire de choses qui vont abîmer, et ensuite réconciliation. Donc, ensemble, répétons à haute voix. Un, pardon. Deux, consécration. Trois, réconciliation. C'est quoi le sacrifice pour le trois déjà? Communion. Voilà. Est-ce que Pierre, t'arriverais à me dire les trois là? Ouais. Un. Ouais. Ouais. Réconciliation. Mais c'est le sacrifice de communion, tu as juste. Le deuxième, tu te rappelles quel sacrifice c'est? Le deuxième, au milieu. Juliette? Juliette? Ouais, le grain. Alors, très bien, j'ai vu. Le premier, c'est quoi déjà? Oui, et c'est quoi comme sacrifice? Voilà, bah c'est bon. Garde-le, rappelle-toi, je retourne à toi. Oui, oui. Les deux. Alors, tu peux regarder avec la feuille. Mais en fait, quand on sait qu'on va être, on va recevoir une question, en général, ça motive un peu. Mon but, c'est de vous motiver. C'est la seule raison. Alors, on va voir maintenant. Pour aujourd'hui, on va juste regarder jusqu'à 7. Hein. Le quatrième, c'est le sacrifice pour le péché. C'est quatrième et cinquième. Et finalement, j'aimerais vous dire, plus que sacrifice pour le péché, le terme, si vous voulez vous rappeler pour ce quatrième chapitre, ça serait purification. Donc le chapitre 4, sacrifice pour le péché. D'accord ? Donc le 1, on avait l'Holocauste, 2, offrande de grains, 3, sacrifice de communion. Et le quatrième, le sacrifice pour le péché, le but, c'est la purification. La purification, c'est que après le péché, nous sommes impurs. Quand on fait un péché, notre conscience n'est pas tranquille. Et on se sent impur, on se sent pas droit, on se sent pas juste, on sent qu'il y a quelque chose qu'on a fait qui est pas juste. Par exemple, dans la pièce de théâtre de Shakespeare, qui s'appelle Macbeth, ceux qui connaissent... Colin, tu connais ? Dans Macbeth, c'est l'histoire d'un homme qui va devenir roi en tuant celui qui était roi avant lui. Avec sa femme, ils vont faire un piège et ils vont tuer le roi et il va devenir roi. Et sa femme, qui a encouragé le meurtre, qui y a aidé, va avoir un problème. Elle va se sentir impure. Et comment ça va se manifester ? La nuit, quand elle dort, elle va se réveiller ou se lever en somnambule, et en tant que somnambule, elle va essayer de se laver les mains parce qu'elle a l'impression qu'elle a du sang qui reste sur ses mains et elle n'arrive pas à l'enlever. Elle essaye de se laver les mains pour enlever le sang et toutes les nuits, ça revient à la même chose parce qu'elle se sent impure. Le péché nous rend impurs quand on le fait, nous rend impurs quand on le subit. Et c'est une réalité spirituelle et psychologique. Si vous avez des gens qui ont été abusés, la plupart du temps, les gens vont se sentir impurs. Et il va y avoir une sorte de malaise. Et un des points pour cette libération de ce passé douloureux, ça sera de sentir qu'on peut être purifié, qu'on n'est pas prisonnier de ce passé. Et ça, c'est vraiment un élément important. L'impureté n'est pas secondaire. Ne vous dites pas, l'impureté, c'était pour l'Ancien Testament. L'impureté, on la vit aujourd'hui. Quand des gens disent des paroles tordues, à un moment, des insultes, des mensonges, et que vous êtes avec des gens comme ça, comment vous vous sentez au bout d'un certain temps ?
Sali.
On se sent sali. Avec des grosses blagues tordues, avec des réflexions perverses, moches, on se sent sale après. C'est normal. L'impureté, c'est quand la personne a péché, elle sera impure, mais ceux qui ont subi le péché aussi sont impurs. Le but de Dieu, ça va être d'enseigner les notions d'impureté à travers des choses concrètes qui auront un rôle pédagogique. Et on pourrait dire pourquoi c'est comme ça, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y aura des animaux purs et impurs ? On sait que dans le Nouveau Testament, Dieu va passer à une nouvelle étape avec Pierre, il va lui dire, une fois Pierre va avoir une offrande qui lui est présentée, et Dieu lui dira « mange ». Et Pierre dira à Dieu « non Seigneur, je ne peux pas manger, ces animaux sont impurs. Pour les juifs, on n'a pas le droit d'en manger. » Dieu lui dira, prends et mange. C'est une façon de dire, avec Jésus, le sacrifice parfait est venu et la notion de animaux purs, animaux impurs a disparu. Mais c'était un outil puissant pour aider les gens à prendre conscience que l'impureté va au-delà de l'apparence. L'apparence, vous pouvez cacher des choses. Et Dieu vous dit, bah, pour moi, ces animaux, je ne veux pas que tu les manges, et ceux-là, tu peux les manger. Et c'était une façon d'obéir à Dieu, mais c'était une façon d'entrer dans une réflexion sur le fait que Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Il y avait un aspect pédagogique. Et cette impureté, le but, c'était d'en être libéré. Parfois, on peut se sentir impur, à cause du péché d'autres, et on ne sait pas comment en sortir. Et les gens qui ont péché contre nous, quand on nous a fait du mal... Des fois, on se sent un peu coupable. On se dit, j'aurais dû me défendre, j'aurais dû... Et cette impureté est transmise et on la vit aussi, on ne sait pas quoi faire avec. Dieu a un chemin. Et le sacrifice de Jésus est aussi pour cela. Et on va en parler. Dieu veut nous laver, nous purifier. Et ça sera les sacrifices du chapitre 4 et 5, sacrifices pour le péché. Quel est le mot-clé ?
Purification.
Purification. Pierre, le chapitre 4 et 5, le mot-clé, c'est ? Ok. Alors, on va lire plusieurs textes. Est-ce que, Anton, tu pourrais prendre dans Révélation, l'Apocalypse, pardon, chapitre 7, verset 14 ? Alors, chapitre 7 de l'Apocalypse, le verset 14. Frédéric, tu te prépares avec Hébreux 9, versets 12 à 14. Dominique, est-ce que tu as une Bible ? Non ? Alors, attends. Tiens, Dominique, tu vas te préparer avec Hébreux 12, versets 19 à 22. Est-ce que, Anton, tu pourrais nous lire ? Donc, Apocalypse 7, 14.
Je dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau.
Merci, Anthony. Ils ont lavé leur robe et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Le sang est ce qui purifie. Le sang, c'est ce qui va purifier. La notion de purification, c'est apprendre à ne plus voir seulement avec nos yeux physiques, mais commencer à voir de manière spirituelle. Vous me direz, ouais, c'est bien théorique ton affaire. Le but de la science moderne est la même chose. Eux, au lieu de purification, ils parleront de désinfection, des germes. Est-ce que vous voyez les germes ? Est-ce que vous voyez les microbes sur vos mains ? Vous savez qu'il y a des pays, quand on leur dit qu'il faut se laver les mains avant de manger, quand tu as fait telle chose ou quoi, ça va te donner des maladies. Les gens, ils vous disent, non, non, elles sont propres, mes mains, regarde, il n'y a rien dessus. Il y a besoin d'un enseignement parce que ça ne se voit pas. Cet enseignement, la science moderne va se faire un plaisir de le faire, de dire, voilà, il faut que tu passes de l'alcool si vraiment elles sont sales, ou se laver avec du savon, pour que les germes ne se transmettent pas. Eh bien, la purification, c'est comme ça. Et le point clé dans l'Ancien Testament, c'était le sang. Le sang était le moyen de purifier. Comment est-ce qu'on était purifié du sang, de l'impureté ? Par le sang. C'est pour ça qu'il va être dit, lavez l'autel des sacrifices avec du sang. On se dit, mais attends, laver avec du sang ? Non, c'est pas laver. Ça avait un aspect symbolique. Le sang est ce qui contenait la vie. Et laver avec le sang, c'est une façon de dire, tu purifies avec la vie. Avec la vie que Dieu t'a donnée. Et quand on devient chrétien, on découvre que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous libérer de notre impureté, nous libérer de toutes ces choses qui ne vont pas dans nos vies, toutes ces choses où on n'est pas fier. Souvent, les personnes qui diront « Moi, je n'ai pas de problème dans ma vie », souvent, ils auront un mal-être à l'intérieur parce que on ne peut pas être pleinement heureux si on n'est pas pleinement accepté. Accepter de l'autre. Ça va être déjà dans des relations. Mais pour être accepté pleinement de l'autre, il faut qu'on agisse de manière pleinement gracieuse envers l'autre. C'est vrai dans les relations humaines, c'est vrai avec Dieu. Et c'est pour ça que Dieu avait donné un moyen pour être purifié. Et si vous voulez vous rappeler, le sang, ça sert à quoi ? À purifier. Il vient de la vie et on ne peut l'utiliser qu'avec l'autorisation de Dieu pour purifier. C'est un peu comme si vous deviez, pour avoir de l'alcool à 90 degrés, vous deviez aller à la pharmacie et obtenir l'alcool pour qu'il fasse juste ce rôle-là. D'ailleurs, le but des pharmaciens, en général avec l'alcool à 90, c'est de faire tout ce qu'ils peuvent pour que cet alcool ne soit pas utilisé à d'autres fins. Vous savez comment ils font ? Ils mettent des cochonneries dedans pour que les gens n'aient pas la tentation de le boire. Essayez de boire de l'alcool à 90. Même dilué, ils mettent des choses qui ne sont pas agréables pour boire. Parce que ça, il s'est fait, même de l'alcool à 60, que les gens prenaient ça comme de l'alcool pour se saouler. Et finalement, le sang, on est utilisé que pour la purification. On ne peut pas l'utiliser pour autre chose. On ne peut pas verser le sang. Il y a un enseignement profond sur la valeur de la vie à travers cela. Alors, est-ce que Frédéric, tu pourrais nous lire le verset 12 à 14 d'Hébreu 9 ? Et Juliette, tu te prépareras, toi, pour Hébreu 13, versets 12 à 16.
Et il est entré une fois pour tous dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant ?
Merci. Il est rentré dans le sanctuaire par le sang, son propre sang, parce qu'il devait être purifié. Alors, est-ce que Jésus avait besoin d'être purifié ? Non, mais c'est pour nous donner une image, pour voir comment Jésus passe à une nouvelle étape. C'est son sang qui purifie. Vous connaissez la chanson ? C'est son sang qui purifie, c'est son sang qui donne la vie. Oui, oui, par son sang. Vous l'avez jamais, on ne l'a jamais chanté. Hein ? Tu le connais, Pierre ? Finalement, c'est le sang de Jésus qui purifie. Alors, on répète une fois ensemble de 1 à 4, 5. Alors, ceux qui sont pas sûrs, Pierre, tu répètes avec nous, vérifie que tu connais. Quand je fais répéter, le but, c'est pour tous. D'accord ? Hein ? Très bien. Alors, sans regarder, numéro 1. Holocauste, pourquoi ? Le deuxième. Pour ? Troisième. Quatre, cinq. Voilà. Avec ça, vous avez les points clés qui vous permettent à comprendre le système des sacrifices. On continue avec Dominique. Tu pourrais nous lire les versets 19 à 22 de Hébreux 10. Hébreux 10, versets 19 à 22. Hébreux 10, versets 19 à 22. Hébreux, livre d'Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Et Juliette, tu auras Hébreux 13, de 10 à 16.
Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce à la mort de Jésus. Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire au travers de son propre corps. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une foi pleine d'assurance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé au moyen d'une eau pure.
Merci Dominique. Alors là, pour moi, c'est un drame parce qu'ils ont enlevé le mot qui a le plus de sens dans la traduction. Le verset 19, est-ce que Laurence, tu pourrais me dire la fin du verset que tu as chez toi ?
Grâce au sang du sacrifice de Jésus.
Qu'est-ce que tu as dans ta version, Dominique, fin du 19, par la mort de Jésus, tu as ?
La liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce à la mort de Jésus.
À la mort de Jésus. C'est le sang ? C'est le sang, parce que c'est le sang qui purifie. Donc, c'est pas la mort, il y a plus. Donc, les personnes qui même traduisent la Bible du Nouveau Testament, des fois, connaissent pas ce symbolisme et perdent des éléments. Et je vous invite à ne pas les perdre. Le sang a un rôle symbolique important. Pour Dieu, le sang est sacré. Il dit, tu n'as pas le droit de verser le sang. Tu n'as pas le droit de manger le sang. C'est une façon de se rappeler que la vie est sacrée, que la vie est précieuse. Et donc, c'est par le sang de Jésus. Parce que le but n'était pas de continuer à tuer. Le but était d'arriver à finalement accepter qu'un sacrifice qui a de la valeur. Et le but de Dieu, c'est pas de tuer, de vous tuer quand vous avez péché. Le but de Dieu, c'est de vous offrir un chemin pour être réconcilié avec lui. Et Jésus a ouvert ce chemin avec les principes instaurés déjà en Lévitique. Alors Juliette, tu peux nous lire 13, versets 10 à 16 ?
Nous avons un autel pour ceux qui font le service au tabernacle. Il dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du corps. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sacrifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à vie, hors du corps, en portant sur nos propres. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à notre avenir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'air qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est un de tels sacrifices que Dieu confesse.
Merci Juliette. Un sacrifice de louange. Louer Dieu est un sacrifice. C'est finalement une offrande, c'est une façon de se tourner vers Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on a un passage où ces sacrifices, le but c'était la relation avec Dieu. Et aujourd'hui, ces façons d'entrer en relation avec Dieu ont changé à travers Jésus. À travers Jésus qui est mort pour nos péchés, pour nous délivrer du poids de nos péchés, parce que nos péchés, ça nous tourne dans la tête. Notre impureté, ça nous tourne dans la tête et on a besoin d'en être délivré pour être vraiment paisible et joyeux dans ce monde. Tant qu'on est prisonnier du passé, on ne peut pas être heureux. Il y a quelque chose qui nous retient, qui nous empêche. C'est comme si on se dit, une fois que ça sera réglé, je serai vraiment bien. Et Dieu a fourni tous les éléments pour qu'on puisse être délivré de tout ce passé qui est douloureux. Alors on va voir le dernier élément qui est à la fin... On a des sacrifices.
Excuse-moi Stéphane, juste pour comprendre. Donc, le premier, on brûle tout, on ne mange pas. Le deuxième, c'est le prêtre qui mange.
Qui mange. Le troisième, c'est partagé pour la communauté.
Et donc, le sacrifice du péché, on ne mange pas non plus.
Alors, tous les sacrifices suivants, en fait, vont être un exemple du sacrifice 1, 2 ou 3. Tu n'en as que 3 types.
D'accord.
Et donc, les sacrifices de péché vont reprendre le 1 des fois, et donc, ils vont reprendre. Mais en général, vous avez que les trois premiers. Là, c'est pour un but encore plus précis, si on veut. Hein. D'accord. Donc, rappelez-vous surtout des trois premiers. Après 4, 5, début, la fin du chapitre 5, ça va être sacrifice de culpabilité. D'accord. Vous voulez répéter après moi, fin du 5, sacrifice de culpabilité. Ça fera partie, c'est les derniers à apprendre pour aujourd'hui, pour se rappeler, pour que vous ayez. Et le mot-clé... de sacrifice de culpabilité, ça va être réparation.
Vous avez dit que purification, c'est pour 4 et 5.
Oui.
Et la fin de 5, c'est justement réparation.
Réparation. Donc, réparer. Quand il y a quelque chose d'abîmé, quand vous avez volé, on trouvera dans Nombre chapitre 5, si vous avez volé quelque chose à quelqu'un, et vous vous dites, je suis désolé, est-ce que ça marche ? Non. Il faudra ramener ce que vous avez volé, dans la mesure du possible, plus un cinquième. C'est le sacrifice de réparation. Voilà, dans la mesure du possible, rendre ce que tu as volé. Et je dirais, dans la foi chrétienne, ne méprisons pas cela. Quand on se repent d'un péché, voir ce qu'on peut faire pour remplacer le péché par une action bonne. Réparation, on pourrait penser à une attitude de repentance. Hein. La repentance, c'est se détourner du péché et faire le bien à la place. Donc, 5b, la fin, réparation. Vous vous en rappellerez ? Donc, on répète tous ensemble. Chapitre 1, c'est quoi déjà ? Holocauste. Pardon, le chapitre 2. 3. Quatrième et début du 5. Et fin du 5. Sacrifice de culpabilité pour... Voilà. À la fin, dans 5 minutes, je vais vous poser des questions les uns aux autres. Comment on fait ? Ce sacrifice de réparation est ce qui est décrit dans Isaïe 53. Est-ce que, Alexandre, tu pourrais prendre ta Bible et nous lire Isaïe 53, versets 5, 6, 7. Oui. Merci Alexandre. Ce texte-là était un des textes que les premiers chrétiens ont expliqué. Alors, on va se dire, c'est horrible, cela, ce qui s'est passé à Jésus. Oui, c'est horrible. Jésus est le vaccin contre le péché. Un vaccin, on inocule un peu du mal pour en être libéré. Jésus n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité. Mais il a accepté de souffrir sans répondre au mal. Le problème du péché, c'est quoi finalement ? C'est que ça entraîne le péché. Le problème du péché, c'est que on vous tape et qu'est-ce que vous avez envie de faire ? On a envie de rendre. Et plus on fait ça, plus on détruit dans le monde. Et à un moment donné, on se dit, une fois que j'aurai fait ça, vous vous rappelez le sketch la semaine dernière quand le gars se met en colère contre la personne et lui dit, une fois que je me serai vengé, je me sentirai mieux. Et la voix de off du père là qui dit non, tu te sentiras pas mieux. Non. Quand on s'est vengé, on se sent mieux, moins bien encore. Parce que la vengeance ne fait pas plaisir. Même si on a des films du. Un des acteurs qui était spécialiste de ces films de vengeance, c'était, je crois, Charles Bronson. Vous connaissez les films de lui ? Oui. Le vengeur contre la loi, quelqu'un a tué quelqu'un qu'il aimait, sa fille, son frère, sa sœur. Il part tout seul avec son fusil, va se faire blesser, va souffrir, et à la fin, il tue la personne. Comme si ça va lui faire du bien. Mais on ne voit pas la vie de ce gars après. On ne voit pas la vie de ce gars après. Il est brisé parce que on ne peut pas être des vengeurs absolus, parce qu'on ne sait pas absolument ce qui s'est passé dans la vie des gens. Et juger, pour nous, on se casse toujours la figure, on ne sait pas évaluer de manière absolue. Et là, on voit que Jésus, il offre le chemin pour être libéré du péché. Il accepte les conséquences du péché et il ne répond à rien. Il accepte d'être celui qui offre sa vie. Là où d'autres ont pris la vie, lui, il va donner la vie. C'est cette réparation qu'on a vue dans la fin du Lévitique chapitre 5, cette réparation. Et j'aimerais vous inviter à méditer, alors que nous nous approchons de Pâques, méditer comment ces sacrifices s'appliquent à Jésus. Le sacrifice de l'Holocauste, comment Jésus s'est offert entièrement pour nous. Le sacrifice de grains, comment Jésus finalement se consacre à Dieu et s'est consacré à nous aimer de tout son être, qu'il n'a rien gardé pour lui. Jusqu'au reste de toute sa vie, il s'est offert à nous. Comment Jésus a été un sacrifice aussi de communion. Et là, ça va être la Sainte Cène qui a médité, où Jésus dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez et buvez. Et il va inviter les disciples à vivre un repas, tout comme dans le chapitre 3, la communion, il y a un repas après. Le chapitre 4, ça sera le sacrifice de culpabilité, sacrifice pour le péché, merci de me corriger Juliette. Pour faire quoi ça ? Purifier, pour qu'on soit délivré de ce sentiment d'être impur. Et Jésus, il nous a purifiés par son sang. Rappelez-vous, le sang de Jésus purifie. Et le chapitre 5, la fin, ça va être le sacrifice de culpabilité. Ça va être, face à notre culpabilité, il y a une réparation à faire. Et cette réparation, par la foi, nous croyons que Jésus, qui fait partie de nous, qui fait partie de notre équipe en tant qu'humain, il a donné réparation, il s'est offert à Dieu, et que Dieu a accepté en disant « J'accepte ce sacrifice pour ceux qui croiront en toi et qui suivront tes enseignements, qui sont les enseignements de Dieu. » Je vous invite cette semaine à méditer tous ces éléments, ces six éléments du sacrifice. Et rappelez-vous, la semaine prochaine, quand on se voit, on va continuer sur Lévitique. Et bien sûr, on commencera par quoi ? Je me ferai un plaisir de vérifier que tout le monde connaît. Pas pour vous embêter, mais parce que je crois que c'est des éléments importants pour que vous compreniez, alors qu'on se rapproche de Pâques, qu'est-ce que c'est le sacrifice de Jésus ? Alors j'ai commencé de ce côté cette fois, la dernière fois avec Pierre. On va commencer avec Colline, puis chacun on vous posait une question. Pierre, tu sais ce qui t'arrive, donc tu écoutes bien pour être sûr que tu es bon quand ça arrive à toi. Et on fait dans le désordre. Hein. Je commence avec toi, Colline. Tu demandes à qui tu veux dans la salle. Qu'est-ce que c'est le sacrifice pour le chapitre 4 et début du 5? Sacrifice pour la purification, et le nom du sacrifice c'est sacrifice pour. Est-ce que Lily t'arrivera à aider Colline? Ouais. Sacrifice pour le péché, sin offering en anglais. Oui. Ok, Colline, tu es le boss, tu choisis une des personnes, qui tu veux? Fin du chapitre 5. Aïe, aïe, aïe. C'est le dernier. C'est le dernier qu'on a vu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait à ta voiture au garage? Ouais. Sacrifice de... répare. Qu'est-ce que c'est le mot qui commence par répare et qui a sion à la fin? De culpabilité. Ok, Alexandre, choisis quelqu'un d'autre, puis on peut te remettre dans le tour après. Tu sais que la semaine prochaine, je me ferai un plaisir de t'encourager. Vas-y, à toi de trouver quelqu'un. Deux sacrifices avant le sacrifice de culpabilité. Oh là là, c'est compliqué ça. Alors. Alors, il était. Voilà, c'est le 3, ouais. C'est très bien. Et c'est pourquoi celui-là? Ouais, c'est sur l'appel. C'est bon, si tu as ça, moi je suis content avec, mais le mot qu'on. Hein? Shalom. Shalom. Ah, l'hébreu est ravi avec ça. Là, je te bénis, là. Et c'est la réconciliation, le mot qu'on avait parlé. Mais là, t'es bon à 100%. Là. Si vous dites shalom, paix, c'est bon. Ok, à toi.
Le dernier.
Oui, et c'est pour le sacrifice de... Non, réconciliation, c'est celui de... Réparation, ça s'appelle... Pour la réparation, mais ça s'appelle comment le sacrifice? Sacrifice de... T'es presque bon, Anton, hein, t'as juste le dernier mot. Sacrifice de... Voilà, c'est bon. Anton, à toi. Vas-y de... Alors, le 2. Ouais.
Ça commence
par la dîme.
C'est de quoi concassé? La consécration.
Consécration, c'est bon.
Concassé,
à toi.
Consécration.
Sandra, quel est celui qui est à cheval sur deux chapitres?
Le 5.
Oui, un bout de 5. Un verset 4 et un bout de 5.
Chapitre 5. La première partie, c'est sacrifice pour le péché, et c'est la purification par le sang. Et la fin du 5, sacrifice pour la culpabilité, pour la culpabilité, c'est la réparation.
Ok. À toi, Sandra, qui est-ce qui reste?
Dominique, le chapitre 1, la première offrande.
Donc, la première offrande, c'est l'Holocauste, qui est brûlé entièrement, et ça, c'est par rapport quand on a péché, c'est ça?
C'est pour le... Pour le pardon. Alors, de fait, il y a le péché implicitement, hein, tu as raison. Et ça sera pour le pardon. Ok. Dominique, oui. Alors... Voilà, sacrifice pour le... Très bien. Ok, à toi. Ouais, c'est sacrifice de... C'est quoi? C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Voilà, l'offrande de grains. Voilà, ça marche. À toi, Pierre, de... T'es pas la dernière, hein, y a encore quelqu'un d'autre. Hein. Non, on va quand même lui... Elle a le droit d'avoir son tour à part entière, sinon elle a un demi-tour, faut honorer chacun. Pourquoi faire? Si, offrande de communion, c'est bien. Pour être ensemble. Voilà. Vas-y, Laurence. Très bien. Super. Impeccable. Je vais finir par un mot de prière. Ramenez vos cartes pour dimanche prochain et vos Bibles. Et on va continuer ensemble, voir d'autres éléments, voir que... Comprendre ce qu'est la sainteté sans le livre du Lévitique est très difficile. Et souvent, votre compréhension de la sainteté est tellement théorique que vous vous dites « c'est pas pour moi ». Mais c'est parce qu'on n'a pas lu ces textes-là qui nous aident à voir concrètement c'est quoi la sainteté. C'est l'amour du prochain, c'est l'amour de Dieu dans des choses très concrètes. Je vous invite pour cette semaine à méditer vraiment comment Jésus accomplit ses sacrifices parfaitement pour vous. Des chapitres 1 à 5. Si vous avez besoin, notez les points que je vous ai mentionnés. Et si vous vous en rappelez pas après, je vous les redonne. Hein. Et on va prier, je vais dire juste un mot de prière. On va pas prendre la minute de prière aujourd'hui parce que ensuite Sandra va faire une petite présentation sur la question de l'offrande pour l'évangélisation. Une offrande aussi. Tout comme on a parlé d'offrande aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton sacrifice. Nous voulons, alors que nous nous approchons de Pâques, méditer sur le don de ta vie, comprendre pourquoi les chrétiens nous disons que c'est par ton sang que nous sommes purifiés, qu'on puisse le méditer, qu'on puisse être enseigné par toi, que tu puisses nous aider à voir comment avoir accès au Père, comment être en pleine communion avec toi et nous réjouir en toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen.